Frères et sœurs bien-aimés, il est question de source. Dans la première lecture, alors que le peuple juif progresse et avance vers cette terre promise par Dieu, accompagné de Moïse, traversant le désert, voilà qu'ils connaissent la soif. Et parce qu'ils ont soif, ils commencent à récriminer contre Dieu qui les a pourtant sortis de l'esclavage en Égypte et les conduit vers la liberté des enfants de Dieu en terre promise. Le peuple a soif. Et Dieu demande à Moïse de prendre le bâton, de frapper le rocher, et il en jaillit aussitôt de l'eau. L'image de cette eau jaillissant du rocher est l'image du Christ. Nous bâtissons notre vie sur le roc qui est notre Seigneur Jésus le Christ, et c'est une vie qui nous désaltère puisque nous recevons du Christ la source intérieure, cette eau vive dont il parle et dévoile les secrets à la Samaritaine. Nous sommes alors à Massa et Meriba, le lieu de l'épreuve et de la querelle des hommes sauvés contre Dieu. Et nous, en Bigorre, le 25 février 1858, nous n'étions pas avec Moïse à Massa et Meriba, nous étions avec Bernadette à Massa Biel, à la vieille roche. La grotte bénie de Lourdes était alors encerclée d'eau. Non pas comme aujourd'hui avec un gave déplacé de 15 mètres de l'entrée de la grotte. Le gave rejoignait alors le canal de sa vie. Nous sommes au milieu des eaux. Lorsque Bernadette, après avoir récité le chapelet en présence de la dame, entend cette phrase « Allez à la source, boire et vous lavez. » À la houne, la source. Voilà que Bernadette, bigourdane, capricorne, têtue, elle sait où il y a de l'eau derrière elle. Et pourtant, la dame de son doigt lui indique d'entrer à l'intérieur de la grotte. À plusieurs reprises, marchant à genoux, enjambant, on ne sait comment, les gros rochers, alors qu'une foule importante est autour d'elle qu'elle ne voit pas, elle désobéit. Elle finit par se rendre là où la dame lui indique le lieu de la source. Et voilà qu'avec ses petites mains, elle creuse un peu de boue. Elle n'a sans doute pas compris qu'il s'agissait là encore d'une source. 4 fois, nous dit-elle, j'ai rejeté l'eau, parce qu'elle était beaucoup trop répugnante. Et puis, le petit clos, comme on appelle à Lourdes, juste l'intérieur de sa paume remplie d'eau, voilà qu'elle obéit enfin à la demande de la dame. Aller à la source, boire. Elle le fait et se laver. Elle plonge les mains dans ce limon et s'en macule le visage. Ceux qui ont vu le visage de Bernadette ce jour-là, rougi par la terre, ont déclaré que c'était en lui-même un appel à la conversion, tant le visage de Bernadette était dur. Allez à la source, boire et vous laver. À l'écho de l'évangile que nous venons d'entendre, Notre-Dame vient s'adresser à nous, Samaritains, qui ne sommes pas toujours les plus fidèles au Seigneur, nous qui sommes un peuple de pécheurs, pardonnés, sauvés par notre Seigneur Jésus le Christ, comme nous l'a enseigné saint Paul dans la seconde lecture. Lui, la source de l'amour, n'a même pas offert sa vie pour des gens de bien, mais pour des pécheurs. C'est vous dire combien Dieu nous aime. Il est la source de la bonté. C'est ainsi qu'avec toute l'Église, nous avons prié Dieu en ce jour. Au commencement de la messe, nous l'avons invoqué, lui, comme la source de la bonté, comme la source de la miséricorde. Qu'est-ce donc que la bonté? Voilà un beau mot. La bonté, c'est la conjugaison de l'amour et du bien. Saint Thomas d'Aquin nous dit, il est dans la nature de l'amour de se donner. Et nous voyons la source de l'amour se donner. Le Père se donne au Fils qu'il engendre. Le Fils, puisqu'il est dans la nature de l'amour de se donner, se donne à Dieu le Père, et cet échange de l'amour est une personne dans la Trinité, le Saint-Esprit. Dieu est amour, affirme saint Jean, et il est dans la nature de l'amour de se donner. Dieu est également le bien. Saint Thomas nous dit, il est dans la nature du bien de se communiquer. Et la conjugaison de l'amour qui se donne et du bien qui se communique est la bonté. Lorsque nous lisons, et nous le ferons à la veillée pascale, le récit de création qui ouvre les saintes Écritures, Dieu le Saint-Esprit ne cesse de rendre grâce car il voit que cela était bon. Et lorsque nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu vit que cela était très bon. Nous venons de la bonté de Dieu. Mais le règne du péché fait que le vieil homme s'éloigne toujours de cette source de la bonté. Voilà qui nous permet d'entrer, comme de plein pied, dans cette rencontre improbable entre un juif pieux, orthodoxe et pharisien, notre Seigneur Jésus le Christ, et cette Samaritaine. Pour comprendre pourquoi un juif ne fréquente pas les Samaritains, il nous faut donner quelques clés de lecture. Les Samaritains, pourrions-nous dire, nous qui sommes étrangers au peuple élu, sont un peu comme des cousins germains. Vous avez entendu, ils revendiquent aussi la paternité du patriarche Jacob. À un moment donné, ils se sont séparés de la révélation. Dieu se révèle comme le Dieu unique. Et à cette unicité de Dieu correspond le fait qu'il n'y a qu'un seul temple à Jérusalem. Oh, les Samaritains, à l'image du relativisme d'aujourd'hui, se disent « Oui, d'accord, Dieu est l'unique. » Mais bon, on est des gens ouverts, tolérants. Alors du coup, dans le sein des saints de notre temple, ben, nous, on va faire une partie pour le Dieu unique et puis on va accueillir les dieux de tous les autres peuples étrangers. Les Juifs ne peuvent donc plus fréquenter les Samaritains. Il y avait donc une querelle également commerciale avec l'unicité du temple de Jérusalem, son sacerdoce, sa boucherie sacrée, ses sacrifices et holocaustes. Et c'était moins cher d'aller offrir des sacrifices chez les Samaritains. D'où la question de cette femme. Mais où nous faut-il adorer Dieu en vérité ? Vous, vous dites que c'est à Jérusalem, nous sur la montagne de notre patriarche Jacob. Le Seigneur ne relativise pas la révélation. Il lui rappelle que le salut vient des Juifs. Il ne lui dit pas « Oh, c'est pas grave, Dieu s'en sortira ». Non, le salut vient des Juifs. Mais, parce que la vérité se fait toujours dans la charité, nous dit saint Paul, nous voyons ce discours improbable du Seigneur. Il ne renie rien sur la doctrine. Mais il l'accueille, cette femme pécheresse. Pourquoi pécheresse ? Parce que si on va chercher de l'eau à midi en plein milieu du soleil et du cagnard, c'est parce qu'on ne veut surtout pas rencontrer quelqu'un autour du puits. Et voilà que le Seigneur lui dit que viendra un temps. Et c'est maintenant, dit-il, où on adorera le Père en esprit et en vérité, non plus sur la montagne de Jérusalem. Le Seigneur va pleurer en montant à Jérusalem. Lorsqu'il va voir la splendeur du temple et la ville sainte s'offrir à lui, alors qu'il chantera les psaumes de montée que nous entendrons le jeudi saint, il va pleurer parce que quelques 40 années après le sacrifice de sa vie, en l'an 70, non seulement le temple sera complètement détruit, plus jamais rebâti, mais y compris toute la ville de Jérusalem. Ce n'est plus le temps où nous adorerons Dieu sur telle ou telle montagne, ce sera le temps où nous adorerons le Seigneur en esprit et en vérité. Le Seigneur n'est plus localisable dans le temple de Jérusalem. La nostalgie des Juifs orthodoxes font qu'ils vont se recueillir au mur des Lamentations, les murs de fondation du temple bâti par le roi Salomon, sur lesquels se trouve aujourd'hui la mosquée bleue. Vous voyez les tensions de la Terre Sainte. Et voilà que le Seigneur nous dégage et nous présente un horizon beaucoup plus grand, celui de la création tout entière. Il nous faut donc aller à la source, boire et nous laver. Lorsque le Seigneur lui parle de cette eau vive, elle ne comprend pas, elle est devant le puits, il n'a même pas un seau pour aller puiser dans la profondeur du puits. Et il me parle d'une eau vive, non pas une eau stagnante dans le puits, une eau vive. Et voilà que le Seigneur est l'eau vive de nos âmes. C'est lui qui vient abreuver notre âme de sa grâce puissante. Et lorsqu'il lui dit que si elle boit de cette eau, elle deviendra elle aussi une source jaillissant pour la vie éternelle, nous la voyons partir, missionnaire, dans sa ville de Samarie, elle qui n'était pas estimée, se trouvant seule à midi pour chercher de l'eau. Voilà qu'elle rentre et elle dit « Il sait tout ce que j'ai fait, mes nombreux maris, mes situations d'adultère, mon péché public, lui qui est un étranger, il connaissait tout et elle a senti dans ce cœur à cœur, non seulement que le Seigneur était le juge, mais qu'il était tout autant la source de la miséricorde. Voilà qu'elle va partager la source qu'elle a rencontrée au pied de ce puits et que du coup les gens se mettent à croire en raison de ce qu'elle a dit. Voilà la source que le Seigneur fait couler en nous. Voilà pourquoi Notre-Dame, la reine de la Bigorre et de France, n'a de cesse, lorsqu'elle est venue visiter notre peuple à travers les âges, d'apparaître au pied d'une source. Comment ne pas mentionner la source des As, où la bienheureuse Vierge Marie fait venir ses colombes à nos bergers, où elle prend comme possession de cette source qui passera le Gave devant la grotte bénie de Massabielle jusqu'à quitter la Bigorre pour le Béarn auprès du sanctuaire de Bétharram, lorsqu'elle apparaît à Médouce au Moyen-Âge, puis au XVIIe siècle en la commune d'Asté, proche de Bagnères. C'est à côté d'une résurgence lorsqu'elle apparaît à Anglaise de Sagazan à Garaison. C'est au-dessus d'une source où fleurit un églantier. La dame n'a de cesse de nous conduire à la source qui n'est autre que le Christ. Alors nous suivons ce qu'elle nous dit, elle, notre mère. Allons à la source, allons auprès du Christ. Puiser cette eau vive, alimenter cette source jaillissant pour la vie éternelle. Pas seulement pour nous, mais également pour tous ceux qui nous entourent. Cet amour de Dieu qui doit se manifester dans l'amour du prochain. Puisse donc le Seigneur, source de bonté, source de miséricorde, avoir pitié de nous pécheurs et nous relever chacun d'entre les morts pour nous conduire à la vie éternelle. Ainsi soit-il.